Le semestre de printemps, les oiseaux qui chantent, la Saint-Valentin. Avec la Team Podcast, on s'est dit que c'était le bon moment pour vous faire un épisode sur l'amour. Et vous allez le voir, on a eu trois manières assez différentes d'aborder le sujet. Malheureusement, Alissa n'a pas pu être présente pour cet épisode, mais on va tenter de retranscrire au mieux sa parole. Alors, qu'est-ce que l'amour et l'attachement? Quels sont les modèles de relations amoureuses dans notre société aujourd'hui? Et d'autres modèles existent-ils? Comment Bell Hooks a défini l'amour? En fait, comment bien aimer? À travers une approche sociale, économique et philosophique, et avec vos hôtes,
Souad
et May, on va tenter de répondre à toutes ces questions dans ce troisième épisode du podcast Pensée libre pour Stop VSS UTC.
5 ans après MeToo, le sexisme ne recule pas en France.
Non, c'est même le contraire. Résultat alarmant du rapport annuel du Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes, le sexisme et les violences qui en découlent ont augmenté.
Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que soit bien inscrit. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
33% des femmes ont déjà eu un rapport sexuel alors qu'elles n'en avaient pas envie, mais suite à l'insistance de leur partenaire. Conscient d'ailleurs que le monde est ainsi fait, les femmes ont intégré le sexisme dans leur quotidien. Alors elles s'adaptent et elles renoncent à faire des activités seules, plus une femme sur deux, à s'habiller comme elles le souhaitent, aussi plus une femme sur deux, à ne pas parler trop fort.
Tout d'abord, je me suis questionnée sur le lien entre amour, capitalisme et patriarcat. Et je pense qu'il est important de dire que la relation amoureuse, c'est un modèle aussi bien glorifié que codifié. Je m'explique. Je sais pas vous, mais quand on parle d'amour avec un grand A, je pense directement à l'amour romantique. Et je pense que vous aussi d'ailleurs. On pense à l'amour qui nous donne des papillons dans le ventre, qui nous rend aveugles et qu'on apprend à désirer dès le plus jeune âge. Je pense bien sûr aux contes de fées, qui nous montrent qu'embrasser une fille dans son sommeil, c'est le summum du romantisme, qu'une jeune fille de 16 ans peut tout sacrifier pour l'homme qu'elle aime, et que le rêve d'une vie, c'est l'amour bien sûr, comme le dit si bien Cendrillon. Ces représentations ont beau être d'un autre âge, elles ont marqué notre imaginaire collectif et qui, en plus de véhiculer une notion du consentement très bancale, normalise un schéma de relation unique. L'homme et la femme se rencontrent, tombent amoureux, échangent un baiser, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce schéma bien tracé, il a même un petit nom, l'escalator des relations. C'est Amy Garan, désolé pour la prononciation, auteur de l'ouvrage « Of the Relationship Escalator, Uncommon Love and Life », qui a évoqué ce concept pour la première fois. Elle y explique que cette notion est une norme selon laquelle la plupart des gens évaluent si une relation intime qui se développe est significative, sérieuse, bonne, saine, engagée ou mérite d'être poursuivie ou maintenue. Bien sûr, ce type de relation n'est pas problématique en soi. Si vous vous retrouvez dans cette description et que vous êtes heureux, heureuse, tant mieux, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que c'est l'unique type de relation qui a été représenté, ce qui participe à l'invisibilisation de toute une diversité. Les personnes queer, les relations polyamoureuses et des relations d'amitié aussi qui peuvent être, à mon sens, très très fortes. Ce schéma s'accompagne souvent de représentations pas fofolle sur la place de l'homme et de la femme et du rapport de domination entre les deux. En fait, l'idée du couple hétérosexuel conventionnel et sa glorification dans notre société, c'est bien pratique pour maintenir les rapports de domination. Les relations, c'est un peu une reproduction de notre ordre établi. Dans certaines relations, les hommes, par exemple, y ont un pouvoir hégémonique. Et cette domination peut finir en drame. Rappelons qu'en France, en 2021, 208 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires ont été recensées, soit une augmentation de 21% par rapport à 2020. Se questionner sur sa relation, sur ses représentations, ça peut aussi nous permettre de prendre conscience de certains biais. En fait, l'intime, est-ce que ce serait pas aussi politique? Des réflexions, Souad?
Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on oublie assez souvent que notre manière d'aimer, elle est conditionnée par nos biais, en fait, nos biais sociaux, qu'on le veuille ou non. On va jamais être assez déconstruit pour ne plus s'aimer en suivant certains codes qu'on nous a transmis à travers les médias, par exemple. C'est vrai que la solution à ça, ce serait peut-être la représentation. Donner une place à d'autres formes d'amour, comme tu l'as dit. Donc, c'est vrai que maintenant, on a l'escalateur des relations. On n'a pas vraiment d'autres normes à suivre. Et est-ce qu'il faudrait même des normes à méditer?
Voilà, à méditer. Et j'ai également une autre réflexion. Parce que pour moi, l'intime, c'est aussi économique. Bon, la formulation est étrange, mais je vais vous donner un exemple. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est l'occasion de passer du temps avec son ou sa partenaire, de lui offrir fleurs, chocolat, et au passage de renflouer un peu les caisses des commerçants.
Surtout.
Et oui, parce que la Saint-Valentin en Occident, c'est avant tout une fête commerciale. En fait, la Saint-Valentin, c'est un peu le reflet de la manière dont nous concevons les relations amoureuses dans un contexte capitaliste. Certains parlent même d'allégorie du capitalisme. Je me base ici sur un article de Slate, rédigé par Emily Lestery et publié en 2015. Elle insiste sur le fait que la Saint-Valentin accentue encore les stéréotypes de genre, avec des produits estampillés pour elle ou pour lui. Elle dit même, je cite, « La Saint-Valentin est une instance de l'hétéronormativité. En accentuant les genres, elle est une injonction à consommer de la virilité pour les hommes et du sexy pour les femmes. » Fin de citation. Sans parler du fait qu'il y a une injonction à consommer afin de, entre guillemets, prouver son amour. Bah oui, si vous offrez pas fleurs, chocolat ou encore parfum à votre partenaire, bah, vous l'aimez pas vraiment, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est la relation en elle-même qui est un produit, qu'on pourrait non seulement consommer, mais même surconsommer. Et c'est le constat que beaucoup font avec la massification des applis de rencontres. Elles réduisent bien souvent les personnes à une photo ou à des critères qu'on pourrait refuser d'un simple mouvement de doigt. Sur ce sujet, je vous recommande d'ailleurs la série de podcasts « La dialectique du culbutsal » publiée dans Le cœur sur la table. C'est une manière assez humoristique d'aborder les coups d'un soir, selon moi. Alors voilà, je vous ai dressé un état des lieux des relations amoureuses actuelles. Et il est évident qu'il reste encore de nombreux aspects sur lesquels on pourrait agir et apporter des améliorations. D'ailleurs, je pense que Swad a des pistes là-dessus.
Oh oui, je vais vous expliquer ça dans peu de temps, mais avant, et si on faisait une petite partie de devinettes et statistiques, Maïmouna?
Allez, on fait ça. Parce que, en tant que fan Disney, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des questions en rapport avec les films d'animation. Comme mentionné, ils ont participé à mettre en avant un modèle unique de relation. Je vais donc vous faire un petit « qui suis-je » en faisant une description et vous allez devoir me trouver de quel personnage il s'agit. Par exemple, je vis avec ma marâtre et mes deux demi-sœurs. J'ai prononcé dans la chanson « Tendre rêve » Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Qui suis-je? Je l'ai dit tout à l'heure.
Cendrillon?
Oui, c'est ça.
Ok, je vais essayer. J'aime les bandits, j'ai un attachement un peu anxieux, en plus d'avoir un ensemble en satin bleu canon. Qui suis-je?
Jasmine.
Eh oui.
Attends, j'en ai un dernier. Je fais partie d'un film d'animation sorti en 1937. Qui était d'ailleurs le premier long métrage d'animation. Et j'ai prononcé la phrase « Un jour, mon prince viendra ».
La Belle au bois dormant?
Non.
Oh, Blanche-Neige?
Ouais, c'est ça.
J'hésitais entre les deux. J'ai dit, c'est qui la plus vieille?
Bien joué, bien joué.
Par contre, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit plus tôt. Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'effet négatif de la sursexualisation.
Des personnages.
Des corps, des gens et l'impact que ça a sur l'amour. Maintenant, on porte plus d'attention à notre attirance sexuelle, à savoir est-ce que j'éprouve du désir pour cette personne, plutôt que de réfléchir à construire une relation avec cette personne.
Non, je vois ce que tu veux dire.
Ouais. En fait, j'ai juste l'impression que ça nous a bousillé le cerveau. Et que maintenant, c'est vrai, le sexe, la sexualité, c'est présent partout. Et on a un peu cette envie organique de partager son corps avec quelqu'un. Sauf que des fois, l'amour, c'est pas seulement ça. Et il faudra apprendre à concevoir l'amour sans cet aspect sursexuel qui est caractéristique de notre société aujourd'hui.
C'est vrai qu'il y a une hypersexualisation même dans les médias. Enfin, oui, tout à l'heure, j'ai dit les personnages, mais parce que je pensais à Jasmine. Enfin, il faut rappeler que dans le film, Jasmine, elle a 16 ans. Et quand on voit son comportement, ou plutôt le comportement de Jafar par rapport à Jasmine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, elle a 16 ans, quoi. Et on la voit danser dans vraiment un habillement assez sommaire.
Oui, c'est ça. Et le pire, c'est qu'on a grandi avec ces représentations-là et que ça ne nous a jamais paru bizarre. Autre exemple, dans les séries aujourd'hui, c'est très rare de trouver une série où il n'y aura pas, surtout des séries romantiques, où il n'y aura pas de scène de sexe tous les trois épisodes. Quoi.
C'est vrai.
Donc, il faudrait peut-être étudier l'impact que ça a eu sur nos relations avec les autres, d'un point de vue romantique ou simplement juste relationnel, à savoir amical ou dans d'autres sphères. Enfin, on n'arrive plus du tout à envisager les corps d'une manière différente. Maintenant, tout est sexuel et c'est un peu triste.
Ouais, je suis d'accord.
Bon, bah sinon, je vais passer à ma partie. Et dans ma partie, j'étudie un point de vue un peu plus philosophique. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est tout d'abord le livre All About Love de Bell Hooks. J'ai commencé ce livre en pensant qu'il allait déconstruire le mythe de l'amour, qui paraissait plus un coup de com' des multinationales pour faire vendre qu'une réalité tangible. Mais c'était tout le contraire. Ce livre, c'est une ode à l'amour. Pas l'amour des rom-coms commerciaux ou l'amour hétéronormé qui suit une ligne conductrice et des étapes claires qu'on connaît tous, comme nous l'a présenté Maïmouna. Mais l'amour comme on devrait tous le connaître. Commençons déjà à situer l'amour aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà fait, mais de nos jours, les idées que l'on se fait de l'amour sont assez péjoratives. L'amour est dit absurde et inutile. L'amour se caractérise donc par un cynisme ambiant qui viendrait du fait qu'il est jugé introuvable. Pourtant, tout le monde souhaite en savoir plus sur l'amour, le connaître vraiment. Nous avons tout simplement peur que notre désir de trop savoir nous rapproche dangereusement du manque d'amour. La plus grosse cause de notre manque d'amour est notre confusion à propos de ce que l'on veut dire lorsqu'on emploie le mot « amour ». C'est pour cette raison qu'il est si important de trouver une définition à l'amour. Même si, sans doute, beaucoup d'entre nous se satisferont à l'idée que l'amour peut signifier tout et n'importe quoi. Parce que précisément, le fait de le définir avec précision et clarté nous met face à nos manques. Mais ne pas réussir à définir l'amour nous maintient dans un état de manque constant, de désir perpétuel, renforçant l'économie du marché. Parce que comme l'a dit Maïmouna, le manque d'amour est une bénédiction pour le consumérisme. Il fait vendre.
J'aimerais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que là, quand tu me demandes de donner une définition de l'amour, je pense que je sais pas quoi dire, enfin... Je pense directement à, comme je disais tout à l'heure, les papillons dans le ventre, ou alors une relation longue. Mais je pense pas vraiment à une définition de l'amour en soi.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on est tous un peu réticents à l'idée de trouver une définition de l'amour, parce que ça enlève un petit peu cette part de mysticisme qu'on lui a inventé, qu'on lui a attribué.
Ouais, c'est vrai.
Alors que en soi, trouver une définition de l'amour, je pense que ça pourrait tous nous aider. Comme je l'ai dit plus tôt, ça nous permettrait de ne plus ressentir ce désir perpétuel envers l'objectif de l'amour, alors que c'est un concept qu'on connaît pas. Moi aussi, je faisais partie de ces gens qui avaient pas trop envie de le définir, parce que voilà, le mystère de l'amour, c'est toujours plus sexy. Mais faut arrêter. Non, en vérité, vous faites ce que vous voulez, mais la définition que je vais vous donner, c'est une définition qui laisse une grosse part à l'interprétation, tout en définissant des termes, des limites claires à l'amour.
Okay.
Donc voilà. Donc Bell Hooks, elle utilise la même définition que Scott Peck, pour qui l'amour, c'est ce qu'on fait. C'est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement. L'amour n'est donc pas instinctif, contrairement à ce que l'on pense. Et cette idée viendrait sûrement du fait que l'on confond amour avec affection. L'affection, c'est un des ingrédients de l'amour, mais ce n'est pas le seul. Pour aimer, nous devons apprendre à mélanger plusieurs ingrédients. Ces ingrédients sont le soin, l'affection, la reconnaissance, le respect, l'engagement et la confiance, ainsi qu'une communication honnête et ouverte. Donc l'amour, c'est pas un sentiment. Et pour moi, ça a été très brutal de le savoir comme ça. Et c'est vrai, les sentiments, c'est l'attirance, si on veut, le désir. Mais l'amour, c'est une action. On décide d'aimer quelqu'un et on décide de lui accorder notre temps, notre attention, nos soins, etc. L'amour, elle se différencie de ce point de vue-là, de ces ingrédients-là. Mais l'amour, elle se différencie aussi au cathexisme. Lorsqu'on est profondément attiré par une personne, on la cathecte. On investit en elle plein de sentiments et d'émotions. La plus grosse différence entre ces deux notions n'est pas seulement que dans l'une, on a créé une vision idéalisée et souvent erronée de la personne pour y investir nos émotions, comme ce serait le cas pour un crush par exemple, mais qu'une personne expérimentant un sentiment de cathexis est capable de blesser ou de négliger la personne en qui elle voue une aussi grosse attirance. L'amour est incompatible avec la maltraitance et la négligence. Les deux sont par définition les opposés de l'amour.
Ok.
Ouais. Donc maintenant, on va revenir sur la partie d'Alissa, qui va nous théoriser l'attachement et le langage de l'amour. Merci Alissa pour tes pistes de réflexion.
Merci. Alors, elle nous dit « L'amour n'est pas une science exacte. Comme le dit si bien le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pourtant, l'amour intrigue et passionne les chercheurs, notamment en sociologie et en psychologie. L'une des théories majeures qui tente d'expliquer nos relations est celle de l'attachement, développée par John Bowlby dans les années 50. Il cherchait alors à comprendre les effets de la séparation prolongée entre un enfant et ses parents. Bon, niveau éthique, on repassera. Aujourd'hui encore, cette théorie reste incontournable pour analyser nos façons d'aimer. La théorie de l'attachement a évolué et a conduit à la définition de 4 types d'attachement qui font désormais partie du vocabulaire de la conversation sur l'amour dans les médias et les réseaux sociaux. 2 années après des expériences sociales réalisées par Bowlby et Ainsworth, je suis vraiment désolée la prononciation, la théorie de l'attachement est appliquée aux adultes. D'abord selon 3 types, l'attachement anxieux, évitant et sécurisant. Un attachement anxieux, Jasmine, 20 à 25% de la population. Cela se caractérise par le fait qu'une personne recherche des niveaux élevés d'intimité et d'approbation de la part de leur partenaire, au point de se sentir extrêmement dépendant d'eux. Ils craignent souvent d'être abandonnés ou rejetés. Par conséquent, il et elle recherchent intensément un sentiment de sécurité et de stabilité dans leur relation. L'idée de ne plus être avec leur partenaire génère des niveaux élevés d'anxiété, qui sont soulagés par son attention et ses soins. Lorsqu'elles perçoivent qu'elles ne bénéficient plus de cette attention et de ses soins, elles ont tendance à s'inquiéter, à se sentir impuissantes, à s'accrocher encore plus à leur partenaire ou à le punir. En bref, ce sont des personnes qui accordent une grande importance à leurs relations intimes, mais qui ont tendance à rester dans un état d'hypervigilance face à d'éventuelles menaces pour la sécurité de leur relation.
Juste par rapport à l'attachement anxieux, ça représente 20 à 25% de la population quand même.
Mm.
Un quart de la population vit toujours dans un état de survie, parce qu'il faut appeler ça de l'hypervigilance. C'est un des états de... fait partie de l'état de survie. Et je pense que c'est assez représentatif de l'état de l'amour aujourd'hui. Mm. Parce que 20 à 25%, je trouve ça énorme.
Ouais, c'est vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant quand même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se rendent pas forcément compte qu'elles sont dans ce type d'attachement.
Oui,
je
ne
sais pas ce que tu en penses.
C'est vrai, mais pourtant, c'est un type d'attachement qu'on voit souvent. Je ne sais pas pour toi, mais même au niveau de mes connaissances, c'est quelque chose d'assez récurrent. Mm. Et je pense que c'est une réponse à de la violence que ces personnes-là ont déjà expérimentée. Parce que pour avoir aussi peur de la réaction de l'autre et l'amour qu'elle nous donne, je pense que c'est assez révélateur d'un manque d'amour ambiant. Et voilà, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à ça d'abord, voir ce qui provoque ce manque d'amour. Et vous avez de la chance parce qu'on va en parler juste après.
Alors, le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement évitant. Donc 15 à 20% de la population. Qui se caractérise par un niveau élevé d'indépendance et par l'évitement de l'intimité. Ces personnes se considèrent comme autosuffisantes sur le plan émotionnel et peu vulnérables. Il et elle estiment donc qu'ils n'ont pas besoin de relations étroites avec les autres et ne sont pas intéressés par la construction ou le maintien d'une proximité avec les personnes qui les entourent. Les adultes ayant un attachement évitant se sentent souvent menacés lorsqu'une autre personne se rapproche d'eux sur le plan émotionnel. Ils et elles ont tendance à fonder leurs valeurs sur leur réalisation personnelle plutôt que de rechercher l'acceptation des autres. Et elles ne croient pas qu'un partenaire puisse leur apporter un soutien émotionnel. Qu'est-ce que t'en penses, Swan ?
Bon bah, je trouve ça intéressant de voir que ces notions-là d'attachement nous aident simplement à décrire la manière dont on perçoit et on reçoit les relations, et pas seulement des grosses cases où on peut s'enfermer. Mm. Ça reste des outils, des descriptifs, et pas autre chose.
Mm. Bah justement, tout à l'heure tu as parlé de l'attachement sécurisant, et je vais donc le définir. Ça représente environ 50 à 60% des personnes, et les personnes ayant un attachement sécurisant se caractérisent par le fait qu'elles expriment ouvertement leurs émotions, recherchent un soutien lorsqu'elles en ont besoin et une bonne estime d'elles-mêmes. Elles sont souvent capables de résoudre des conflits, de communiquer efficacement et sont à l'aise dans la proximité sans craindre d'être piégées. En bref, elles n'ont pas peur de donner ou de demander. Elles n'ont pas non plus peur d'être seules, car elles ne sont pas trop dépendantes d'une approbation extérieure. Le graal de l'attachement, si on veut.
En tout cas, c'est rassurant que ça représente 50 à 60% des gens. Mmh.
Très honnêtement, je ne pensais pas que ça représentait autant de gens. Parce que pour moi, enfin, je ne sais pas, dans les représentations que j'en ai, c'est plutôt l'attachement anxieux qui représenterait oui, 50% voilà. de la population.
Oui, c'est vrai que c'est l'attachement qu'on a le plus l'habitude de voir, que ce soit dans les médias ou dans notre entourage. Mm. On peut se dire que l'attachement sécurisant, il est majoritairement présent chez les personnes d'un certain âge, parce qu'on apprend peut-être à aimer et à être plus sécure, parce que pour aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi. Mm. Et ça, c'est le projet de toute une vie, et ça prend peut-être plus de temps.
Oui, c'est vrai.
Peut-être qu'on a l'habitude de voir des attachements anxieux plus souvent parce que justement les gens n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là de self-esteem, si on veut. Mm-hmm. Donc je vais continuer. Alors, des années après ces trois premiers types d'attachements, un quatrième type d'attachement, l'attachement désorganisé, a été défini. Les personnes souffrant d'un attachement désorganisé alternent les caractéristiques de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant. En fonction des circonstances. Elles éprouvent des sentiments contradictoires à l'égard des relations étroites et ont tendance à adopter un comportement confus et ambigu. Elles désirent l'intimité et la proximité tout en se sentant mal à l'aise. Elles peuvent alterner des moments où elles s'accrochent à leur partenaire et des moments où elles s'en éloignent. Mais bon, tout ça, ce ne sont pas des lois immuables et il est plus difficile de se définir que par un simple questionnaire sur Internet. D'après le chercheur de l'University College of London, Marinus Van, attention à la prononciation, Ijsendoorn, l'attachement n'est que modestement stable tout au long du développement. Les expériences avec d'autres peuvent modifier la façon dont nous nous souvenons de nos expériences d'attachement dans l'enfance et nous mettre sur une voie différente de celle attendue pour le meilleur ou pour le pire. Alors, trouver la bonne personne, c'est bien. Savoir comment elle aime et se sent aimée, c'est encore mieux. C'est justement ce qu'a exploré le conseiller conjugal Gary Chapman dans les années 90 sur sa théorie des 5 langages de l'amour. Pour lui, tout repose sur le fait qu'il y a plusieurs façons, 5 du coup, d'exprimer son amour pour quelqu'un. À noter que la façon dont on exprime son amour pour quelqu'un n'est pas forcément la manière dont on veut la recevoir. Et oui, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Alors on a dans un premier temps les paroles valorisantes. Tu es incroyable, je t'aime. Pour ces personnes, les mots ont un poids énorme. Chaque phrase peut être surinterprétée en bien ou en mal. Le deuxième langage est les cadeaux. Non, ce n'est pas du matérialisme. Un cadeau bien pensé, même une fleur, cueillie sur le chemin, symbolise l'amour et l'intention portée à l'autre. Nous avons aussi les moments de qualité. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est d'être totalement présent, sans distraction. Ce qui blesse ces personnes, sentir que l'autre est là, sans être vraiment là. Nous avons aussi le toucher physique. Là aussi, je vous vois venir. Ce n'est pas une question de sexualité. Un câlin, une main posée sur l'épaule ou un simple effleurement peuvent suffire à créer une connexion émotionnelle forte. Nous avons aussi des services rendus. Les actes valent plus que les mots. Un café préparé le matin, réparer un objet cassé ou gérer une tâche quotidienne, c'est leur façon de dire « je t'aime ». Et ce n'est pas juste une théorie sympa. Des études montrent que les couples qui connaissent et respectent le langage d'amour de leur partenaire ont des relations plus heureuses et plus durables. J'espère que vous en avez appris plus sur vous-même et vos façons d'aimer et que cela vous aura fait réfléchir à comment mieux aborder vos prochaines relations. Et maintenant, je laisse la parole à Swad pour nous expliquer ce qui influence le manque d'amour. Et Swad, c'est moi. Merci beaucoup Alissa pour ta partie.
Oui, je suis d'accord. Merci Alissa. Je pense qu'elle apportera à nos auditeurs vraiment une piste de réflexion sur leur langage d'amour et voilà. Sur les théories de l'attachement. Alors, merci. Swad, j'ai une petite question pour toi.
Oui.
Si tu es à l'aise de nous dire quel est ton langage d'amour.
Oh, tu me dragues. Alors, je dirais que mon langage d'amour, c'est plutôt les paroles valorisantes et peut-être les cadeaux.
Ok. Que, voilà.
Et toi?
Je dirais les moments de qualité.
Oh.
Genre, vraiment le fait de se connecter avec quelqu'un, même si c'est juste discuter ou marcher, peu importe.
C'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de mal avec les moments de qualité, parce que ça me stresse plus qu'autre chose de traîner avec quelqu'un que j'aime. Ça vient peut-être de mon attachement anxieux. Mais
okay.
Voilà. Mais je trouve ça intéressant qu'il y a des gens qui apprécient juste le fait d'avoir la personne qu'ils aiment proche, de passer du temps avec eux. C'est très beau.
Voilà. Maintenant que vous connaissez nos langages de l'amour, si quelqu'un est intéressé, contactez-nous.
Voilà, écoutez, le mail de Stop VSS sera en bio. Voilà.
Exactement.
Demandez Swad ou Maïmouna.
Voilà. Merci beaucoup.
Comme on l'a dit précédemment, aujourd'hui, le manque d'amour est ambiant. Il est très difficile pour toute personne de dire qu'ils ont déjà ressenti de l'amour. Et ce manque d'amour, il peut être causé, selon Bell Hooks et d'autres écrivains, dans un premier temps par le patriarcat et les autres formes de dominance. Dans Creating Love, The Next Great Stage of Growth, John Bradshaw établit le lien entre l'institutionnalisation du patriarcat et le manque d'amour dans les familles. Selon lui, mettre fin au patriarcat, c'est faire un pas en direction de l'amour.
Je pense que ça recoupe un peu ce que je disais précédemment, quand je faisais le lien entre patriarcat et relations amoureuses.
Oui, donc, c'est vrai.
C'est assez intéressant.
Ouais, bah c'est vrai que dans ta partie, on avait plus un état des lieux de notre manière d'aimer et le niveau auquel le patriarcat s'était immiscé dans notre intimité. Et par contre, moi, je n'étais pas au courant que le patriarcat était aussi
néfaste avec l'amour.
Exactement, aussi incompatible avec l'amour. C'est vrai que c'est assez difficile de concevoir un amour où une forme de domination pourrait prévoir. Beaucoup de gens pensent que les hommes, par exemple, peuvent garder le statut de dominant vers les femmes et les enfants tout en les aimant. Comme l'a très bien souligné Carl Jung, il est pourtant évident que quand le désir de pouvoir prévoit, l'amour fait défaut. Car pour maintenir le contrôle et le pouvoir, il est nécessaire d'utiliser le mensonge, la dissimulation et même la violence, physique ou émotionnelle, ce qui nous empêche de nous lier profondément et de tisser des liens d'amour. Pourtant, il n'est pas rare d'entendre qu'une personne fait du mal à son partenaire ou bien à son entourage par amour, ou qu'une personne en aime une autre tout en lui faisant du mal, et qu'on a possiblement accepté ce raisonnement.
Bah, justement, par rapport à ça, je pense... par exemple, au cas d'inceste, où souvent dans les journaux ou dans les médias, on dit ah bah il l'aimait trop,
oui.
Alors que ça n'a vraiment rien à voir avec de l'amour. C'est purement juste écraser une autre personne et voilà. La dominer complètement en fait.
Oui, c'est un abus de pouvoir en soi. Mm. Autre chose, c'est vrai que on a aussi entendu souvent de la part de notre famille quand on recevait des punitions, bah je fais ça parce que je t'aime, j'ai envie de bien t'éduquer, etc. Et bah ça, on va le voir juste après, mais c'est un peu difficile de concevoir l'amour quand on a grandi dans ça. Et ceci peut s'expliquer par le fait que la première école de l'amour que nous suivons soit l'enfance, justement. Nos parents sont censés nous donner de l'amour et ainsi nous montrer à quoi ça ressemble. Mais très souvent, ces familles s'avèrent dysfonctionnelles. Des familles où le soin, l'attention et l'affection, ainsi que la sollicitude, cohabitent avec la maltraitance ou de la négligence. Or, le fait qu'il y ait de la violence témoigne d'abord de l'échec de la pratique de l'amour. Et très souvent, cet amour est conditionné. On reçoit de l'affection et de l'attention quand on satisfait le désir de l'autre. Et l'autre est souvent en premier nos parents. Cette manière de concevoir l'amour empêche les enfants d'acquérir une conscience affective plus profonde et participe ainsi à la création d'adultes
ou de parents qui n'arrivent pas à donner de l'amour à leurs enfants et aux autres. Bell Hooks introduit le terme de terrorisme intime pour définir les violences faites aux enfants dans leur foyer. Les enfants sont considérés comme la propriété des adultes qui les élèvent. Ces adultes peuvent faire ce qu'ils veulent et l'enfant n'est pas dans la possibilité de s'exprimer et n'a pratiquement aucun droit face aux adultes qui l'élèvent. Donc comme tu l'as dit Maïmouna, par exemple dans le cas de l'inceste, l'enfant il n'a aucune chance de s'élever contre le parent violent. Il n'a pas la connaissance nécessaire non plus. Cet environnement est injuste et c'est souvent d'abord dans le cadre de la famille qu'on assiste à de l'abus de pouvoir. Or, il est impossible de concevoir de l'amour sans justice.
Le terme de terrorisme intime, je pense qu'il est vraiment fort. Ouais. Mais en même temps, il décrit bien la violence qu'il peut avoir dans certaines familles, enfin dans certains rapports, relations. Enfin, désolée, je reviens encore à l'inceste, mais pour moi, c'est vraiment du terrorisme intime.
Oui, là, c'est totalement le cas. Avant de lire le livre de Bell Hooks, j'avais moi-même des pistes de réflexion concernant notre manque d'amour et la manière, et enfin la raison pour laquelle on n'arrive pas à aimer les autres sans y intégrer une forme de violence, que ce soit de la maltraitance, de la négligence ou de la violence verbale. Et je pense que tout ça trouve sa source dans la manière dont on a été éduqué. Et après, comme je l'ai dit plus tôt, nos parents, ils nous donnent ce qu'ils ont reçu, à savoir des soins et de l'affection. Ils n'ont pas reçu plus. Et c'est pour ça que très souvent, ils reproduisent des schémas de violence dans lesquels ils ont déjà baigné. Mais voilà, donc je pense que pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord apprendre l'amour et le transmettre aux autres. Donc que ce soit des enfants ou alors, c'est un peu plus tard, juste aux adultes.
Mais pour revenir sur un peu la famille, c'est vrai qu'en France, on a une conception de la famille très verticale. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui sont en toute puissance et puis en dessous, il y a les enfants qui n'auraient presque pas de droits. Et je sais que, par exemple, en Suède, c'est plutôt une conception horizontale de la famille. C'est-à-dire que, oui, les enfants sont plus jeunes, etc. Mais on les considère quand même comme des futurs adultes, comme des petites personnes.
Oui.
Et je pense que ça peut aussi réfléchir à d'autres modèles qui existent par rapport à la famille. Ça peut aussi nous aider à déconstruire un peu, comme tu le disais, ces schémas qui se reproduisent à chaque génération.
Oui, bah c'est sûr qu'il faudrait repenser le modèle familial. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, quand le désir de pouvoir prévaut, l'amour fait défaut. Et ceci, ça peut être aussi attaché aux structures de pouvoir que représentent les parents, par exemple, ou les personnes qui élèvent des enfants. Peut-être qu'avant de vouloir représenter la figure de pouvoir d'autorité du père ou de la mère, il faudrait essayer d'enseigner l'amour d'une autre manière, parce que c'est impossible de faire cohabiter injustice et amour, violence et amour. Et ça, c'est très important de le savoir.
Et du coup, est-ce que tu as des pistes?
Oui, j'ai des pistes, je vais vous les dire tout de suite. Alors, comme dit précédemment, on ne peut s'éveiller à l'amour que si l'on se débarrasse de son obsession pour le pouvoir et la domination. Et ce, dans tous les aspects de la vie, à l'échelle de la société, dans sa globalité. Et c'est dans ce sens que l'éthique de l'amour est si intéressante. Dans son livre, Bell Hooks admet que l'éthique de l'amour présuppose que chacun, chacune, a le droit d'être libre, de vivre une vie pleine et convenable, et elle affirme que notre bien-être est dépendant du bien-être des gens autour. L'éthique et les valeurs sous-jacentes d'une culture structurent et forment la façon dont on parle et agit. Pour elle, des changements radicaux dans la structure de notre société sont indispensables pour que l'amour devienne un phénomène social et non plus marginal et hautement individuel. Donc, l'éthique de l'amour se base sur l'adoption d'une vision globale dans laquelle on considère que sa vie et son destin sont intimement liés à ceux de tous les habitants de la planète, ainsi que sur des valeurs comme la loyauté et l'engagement. Prioriser la vie humaine et en prendre soin, c'est cultiver son bien-être et devenir aimant. L'éthique de l'amour peut avoir un rôle clé dans nos luttes, car elle permet de déconstruire une culture de domination qui n'est pas compatible avec l'amour. La culture de la domination s'appuie sur la peur qu'elle cultive chez les individus, afin de garantir leur obéissance. Or, il n'y a pas de peur dans l'amour. La peur implique une punition, et il est impossible d'aimer lorsque la violence d'une punition menace. Adopter une éthique de l'amour, c'est intégrer toutes les dimensions de l'amour. Soin, engagement, confiance, responsabilité, respect et connaissance dans notre vie quotidienne, envers les autres et soi. L'amour éclaire les décisions, renforce notre sens de la communauté et nous lie. Alors Maïmouna, est-ce que tu vas adopter l'éthique de l'amour aujourd'hui ?
Bah franchement, ouais. Hein.
En vérité, je n'avais jamais entendu ce terme-là. L'éthique de l'amour, ça m'était complètement inconnu. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant et ça peut être un réel outil pour nos luttes. Par exemple, l'éthique de l'amour pour déconstruire des structures de dominance. Comme on l'a dit, ces structures de dominance, des fois, ça peut être simplement la famille. Et c'est vrai que quand on parle de déconstruction, de remodélisation, des sphères de domination, etc., ça a l'air très gros et on se sent tout petit à notre échelle en tant qu'individu. Alors que l'éthique de l'amour nous permet de changer ça à notre échelle sans que ça perde en impact. Et je trouve ça assez intéressant.
Et puis là, on parle des relations entre personnes, mais je pense qu'on peut aussi appliquer l'éthique de l'amour, par exemple, à la planète, en fait, tout simplement. C'est-à-dire... aimer la planète, la respecter, ça permettrait de l'aider, en fait.
Oui, totalement. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que je ne l'avais pas vu sous ce prisme-là. Mais c'est vrai que l'éthique de l'amour associée à toute forme de vivant, ou pas même, on peut peut-être essayer d'élargir ça. Mais voilà, l'éthique de l'amour, c'est vraiment un tremplin, je pense, pour nos luttes. Ou juste pour essayer d'agir en tant qu'être moral. Vraiment, Spinoza n'a rien à envier à Bell Hooks, en fait. Je vais conclure en citant le livre graphique « Comment s'aimer quand c'est la fin du monde » par le média libre Manifesto XXI. On pense que l'amour est souffrant et que cette souffrance est le prix à payer pour l'amour et l'intensité des sentiments. Et voilà, fin de la citation.
Merci.
De rien, merci de nous avoir écoutés et on espère que ce podcast vous a plu.
Oui, encore merci à Alissa qui n'a pas pu être présente mais qui nous a livré vraiment des pistes de réflexion incroyables. Enfin, je ne connaissais pas du tout les langages de l'amour, les théories de l'attachement. Mais si vous voulez nous retrouver, vous pouvez écouter nos épisodes précédents ou à venir. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Graphite. Quels sont nos réseaux sociaux, Swad ?
Alors, nos réseaux sont stopvss_utc pour Instagram et rvvss sur Facebook.
Merci pour votre écoute.
Merci. Et merci Alissa. Bisous.
Bisous.